Dans une grande voiture, sept jeunes gens et jeunes filles revenaient d'un bal lorsque se produisit une collision. Cinq d'entre eux furent tués sur le coup et deux grièvement blessés. Alors qu'ils partaient de chez eux ce soir-là, ils se réjouissaient du plaisir qu'ils allaient avoir. Ils ne pensaient pas que ce serait leur dernière soirée sur la terre. Ils ignoraient que ce qui leur restait à vivre pouvait finalement se compter en minutes. Et récemment, bien, 113 passagers confortablement installés dans un avion, ils se dirigeaient vers la Guadeloupe. Aucun, parmi ces passagers, aucun ne s'imaginait que l'avion dans lequel ils avaient pris place s'écraserait quelques secondes plus tard et qu'ils entreraient dans l'éternité. Aujourd'hui, un nombre incalculable de personnes quitteront cette vie. Et pour beaucoup, la mort viendra brusquement, sans avertissement. Lorsque nous observons les hommes se précipiter avec frénésie dans une course à la gloire, au plaisir et à la fortune, nous sommes étonnés de voir jusqu'à quel point certains vivent sans se soucier de l'éternité. L'homme moderne pourrait répéter les paroles d'un penseur de l'Antiquité qui disait « Nous ne nous inquiétons pas de la mort, mais de la vie. Nos aspirations sont temporelles et non éternelles. Le paradis vers lequel nous tendons est un paradis de sécurité financière, de confort et de facilité. » En fait, nous voulons tellement vivre éternellement sur la terre que la grande majorité des gens ne désirent même pas penser à la mort. Pourtant, la Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Les milliards d'êtres vivants aujourd'hui seront tous morts d'ici 100 ans, et nous savons que tout homme est destiné à mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et dans notre société de consommation et de plaisir, peu de gens osent parler de la mort, du ciel et de l'enfer, et ce silence contribue ainsi à renforcer l'idée que tout se termine à la mort et que la préparation pour une vie au-delà de la tombe, n'a que peu ou pas de conséquences. Et la Bible a beaucoup à dire sur la brièveté de la vie, sur la nécessité de se préparer pour l'éternité. Il y a un vieux dicton américain qui dit « Il n'y a que deux choses qui soient certaines, c'est la mort et les impôts. » Il doit y avoir un vieux Belge qui doit avoir dit la même chose aussi. Il y a deux choses qu'on est certaines, c'est la mort et les impôts. Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes en effet, encore une fois, c'est une parole tirée des Écritures, vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît un instant et qui disparaît ensuite. Et avez-vous déjà observé le brouillard du matin? Il apparaît et il disparaît tellement vite. Et il s'évapore au soleil et il disparaît avec le jour. Et notre vie, elle est semblable à cette matinée, à cette vapeur matinale qui n'apparaît qu'un instant et puis qui s'évanouit. Et la Bible se sert de plusieurs images pour parler de la brièveté de la vie et de l'évidence de Dieu. Nous vivons dans un monde, malheureusement, qui ne croit plus en Dieu, qui a ses yeux fixés sur un Big Bang et ses yeux fixés sur l'évolution. Et ça amène l'homme à penser que finalement, il vaut pas plus cher qu'un cheval, qu'un chien, qu'un animal, que sa vie, finalement, à la fin de sa vie, eh bien, tout ce qu'il va recevoir, toute l'espérance qu'il peut avoir, c'est de se retrouver dans un cercueil, c'est de se retrouver dans la terre, et c'est terminé. Mais la Bible nous parle d'un message beaucoup plus stimulant, beaucoup plus encourageant. Elle nous rappelle que l'homme, c'est une créature que Dieu avait créée à part de toutes les autres créatures, de tous les autres êtres vivants dans le monde, et que l'homme a une espérance pour l'éternité. La fin de cette vie sur terre, eh bien, c'est le début d'une nouvelle vie pour l'éternité, soit dans la présence de Dieu, ou hors dans la présence de Dieu. Et la Bible nous parle, nous rappelle pourquoi Jésus était venu. Et c'est ce qui fait la force du vrai christianisme, contrairement à toutes les autres religions. C'est ce qui fait vraiment la force du christianisme. Si on m'avait annoncé que Jésus était mort sur une croix pour mes péchés et qu'il n'était pas ressuscité, je vais vous dire honnêtement, je continuerai l'ancienne vie que je faisais avant. Mais mon espérance, c'est pas seulement dans la croix, dans le pardon de mes péchés, mais c'est surtout dans la résurrection. Jésus est revenu de la mort à la vie, et la Bible me dit que tous ceux qui ont cru en lui, eh bien, un jour, les ramènera aussi de la mort à la vie pour entrer, pour partager ce paradis avec Dieu sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va créer. Et on vit dans un monde qui met tout, la pression est incroyable sur l'être humain, sur l'esprit de l'être humain pour lui faire oublier qu'un jour ou l'autre, il y aura un rendez-vous avec la mort. Toute la pression est mise pour distraire les gens afin d'oublier cette idée de la mort. Peu importe que vous viviez jusqu'à 70, 80 ou même 100 ans, comparé à l'éternité, votre vie n'est qu'un clin d'œil. Posez votre main sur votre cœur et sentez-le battre. Il répète vite. Regardez l'aiguille des secondes de votre monde, elle redit sans cesse vite. Et quand on y pense profondément, c'est vrai que notre cœur bat, Mais quand Dieu décide que le cœur va arrêter de battre, la médecine, la science peut faire ce qu'elle veut. Le cœur, il arrête de battre, et là, on a rendez-vous avec Dieu. Et ce qui est intéressant, la science, on dit que la science prolonge les jours de l'homme, mais en réalité, elle ne prolonge pas, puisque les jours qu'elle prolonge, c'est les jours que Dieu avait prévus pour cette personne. Alors, la science fait son travail, mais en réalité, elle ne dépasse pas les jours que Dieu avait comptés pour une personne. C'est que les jours que la science prolonge, c'est les jours que Dieu avait quand même prévus, que cette personne-là vivrait. Dieu est maître de la vie, c'est lui qui crée, c'est lui qui nous rappelle à lui. Si vous viviez jusqu'à l'âge de 70 ans, vous n'avez que 25 000 jours à vivre. Moi, je suis rendu à 63. Cette fois, 365, il m'en reste de moins en moins à vivre. C'est vrai, quand on calcule comme ça, ça va très, très vite, quoi. Très, très vite. Si vous en avez maintenant 35, vous n'avez donc plus qu'environ 12 000 jours à vivre. Si vous avez 50 ans, vous avez encore un peu plus de 7 000 jours devant vous. Si vous avez 50 ans maintenant, que vous viviez jusqu'à 70 ans, il ne vous reste plus que 175 000 heures à vivre. Les heures passent vite. Le monde n'est pas une demeure permanente, la vie a une fin. Nos jours sont aussi éphémères que l'ombre. Que vous construisiez une cabane ou un palais, quel qu'en soit le prix, ce ne sera jamais qu'une habitation temporaire. Votre vie n'est qu'une ombre fugitive sur l'horizon de l'éternité. Et en son temps, Job a déclaré « La durée de la vie est limitée pour l'homme. C'est Dieu qui a fixé le nombre de ses mois. Il ne peut dépasser le terme qu'il a tracé. » Et ce verset nous enseigne que Dieu a fixé le moment exact où nous devrons mourir. Il a marqué le terme que nous ne pouvons franchir. Alors, ne serait-il pas logique, finalement, que notre premier but dans la vie devrait être de nous préparer à mourir? Quand les hommes sont prêts, quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre, et nos jours sur la terre, sont comme l'ombre. Dans le psaume 103, le psalmiste dit « La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir mais périt. Dès que passe le vent brûlant, la voilà disparue, sans laisser de traces. » L'enfance, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse sont des brefs chapitres de l'histoire rapide de la vie. Il nous semble souvent que c'était hier que nous courions pieds nus dans les bacs à sable avec l'insouciance d'un enfant. Puis est arrivée la jeunesse avec ses joies et ses peines, ses découvertes et le sentiment que nous avons toute la vie devant nous. Et soudainement, nous devenons des adultes. Les fleurs de la vie arrivent à leur plein épanouissement et plus de la moitié de nos jours se sont déjà envolés. Et à mesure que nous avançons vers la vieillesse, nos jours s'écoulent maintenant à une vitesse toujours plus grande. Nos jours sur cette terre sont tellement semblables à une fleur. Et le sort de l'humain, nous dit Isaïe, et le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. C'est bien vrai que les humains ont la fragilité de l'herbe. Et la Bible nous apprend que la vie est une grande incertitude. Elle est comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaît. Nous n'avons qu'une vie à vivre et nous savons tous qu'elle passera rapidement. Seul ce que nous aurons fait pour Christ durera. Et ceux qui ont une Bible, vous lirez à la maison Apocalypse chapitre 14, verset 13. La Bible nous dit que toutes les œuvres qu'on aura accomplies en Christ, c'est tout ce qui va nous suivre dans l'éternité. César Borgia a dit dans les derniers moments de sa vie, « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf la mort. Et maintenant, malheureusement, je vais bientôt mourir sans y être préparé du tout. » J'ai parlé à un homme sur son lit de mort, il avait 80 ans, et avait été en bonne santé toute sa vie avant de tomber malade. Il gémissait et se tordait de douleur sur son lit. Par moments, il criait sans cesse, disant, « J'ai gaspillé ma vie, j'ai perdu mon temps. Que dirai-je à Dieu quand je le verrai? » Il n'y a rien de plus triste que de rencontrer un homme sur son lit de mort, et que la seule chose qu'il peut serrer dans ses mains, c'est ses cartes bancaires et son portefeuille, parce que c'est dans ce qu'il a placé toute son espérance toute sa vie. Et malheureusement, Job nous rappelle, nu je suis venu au monde, et nu je partirai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. On vient au monde tout nu, hein, pour ceux qui ont déjà assisté à des naissances, on vient pas avec un costume, hein, on vient tout nu. Et quand on part, eh bien, le directeur de pompe funèbre, ou celui qui est en bombe, il fait la même chose. Il nous déshabille pour nous revêtir d'un vêtement qui va aller pourrir dans la tombe avec nous. Nu je suis venu au monde, dit Job, et nu je partirai. Et les gens dépensent tellement d'argent pour se faire remonter le visage et se faire remonter tout le reste. Parce qu'on vend l'impression de la vie éternelle à travers ces choses-là. Et c'est dans ces choses-là que le monde place son espérance. Alors que Jésus nous dit, écoute, le corps que tu as, tu n'empêcheras pas de vieillir, tu n'empêcheras pas les rides d'apparaître, Ça n'empêchera pas la peau de commencer à te plisser. Et des petites taches qui montrent que tu vieillis de plus en plus. Mais un jour, je te promets une chose. Je vais te donner un nouveau corps et ce corps-là, il va être incorruptible. Ce corps-là ne vieillira plus. Ce corps-là, il va durer pour l'éternité. Je te donne le choix. Soit tu acceptes ou soit tu refuses. Mais la grande responsabilité que tu as, c'est toi, c'est ta réponse qui va compter. C'est ta réponse qui va déterminer ton éternité. Est-il pas vrai de dire que nous vivons dans un monde où nous perdons et gaspillons tellement de temps pour tout et pour rien? Nous avons beaucoup de temps à consacrer, de la télévision, à la lecture, les distractions de toutes sortes et mille autres choses. Mais nous n'avons pas de temps pour Dieu. Et pourtant, on prendra bien le temps un jour de mourir. Un des vrais buts de la vie n'est-il pas de se préparer pour l'éternité? Si nous passons à côté de cela, même si dans tous les autres domaines nous réussissons, Jésus dit que notre vie sera un échec. La Bible nous avertit du danger de manquer de but en nous disant « Comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut? » Il n'y a pas de réponse à cette question de la Bible car il n'y a pas d'échappatoire pour se préparer à rencontrer Dieu. Nous devons considérer encore un autre fait extraordinaire qui nous dépasse, celui de l'immortalité de nos âmes. Dans 2000 ans, vous serez aussi vivant que vous l'êtes maintenant. La Bible nous enseigne que la vie ne s'achève pas au cimetière. Dieu dit qu'il y a une vie future avec lui pour ceux qui placent leur confiance en son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi qu'il y aura un enfer de séparation avec Dieu pour tous ceux qui auront refusé, rejeté ou négligé de recevoir Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme différent des autres créatures. Et dans Luc chapitre 16, on ne regardera pas ça ce matin. Ceux qui ont une Bible, vous lirez Luc chapitre 16. C'est pas une parabole, c'est un fait vécu. Et c'est terrible de lire, finalement, les deux destinées, celle de Lazare et celle de l'homme riche. C'est épouvantable de voir les destinées éternelles de ces deux hommes-là. Et Lazare, eh bien, il est auprès de son sauveur aujourd'hui. Mais le riche, avec tout son argent, avec tous ses faux espoirs, eh bien, il a eu son paradis sur terre. Maintenant, c'est l'enfer qui l'attend pour l'éternité. Et Jésus, parce qu'il nous aimait, il veut nous expliquer les deux destinées qui s'offrent devant nous. S'il ne nous avait pas aimé, il nous aurait raconté des carabistouilles. Il nous aurait dit, l'enfer, c'est l'histoire de ma grand-mère, ça n'existe pas. Mais parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait qu'on passe l'éternité avec lui, il est venu nous mettre carte sur table, il est venu nous dire, écoute, tu as le choix, c'est toi qui choisis ta destinée, c'est pas Dieu, c'est toi. C'est une grande responsabilité, le libre arbitre de l'homme. La capacité de dire oui, de dire non, c'est incroyable. Parce que c'est en fonction de ça qu'on décide de notre éternité. C'est en fonction de ça qu'on décide où on veut passer l'éternité. Et le libre arbitre, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand on comparaîtra devant Dieu, on ne pourra jamais lui dire « c'est de ta faute, toi ». Dieu va dire « non, c'est le choix de tes décisions. Tout ce que tu as vécu, c'est le choix de tes décisions. Et maintenant, tu vas passer l'éternité, c'est le choix de tes décisions. » Et moi, eh bien, je sais une chose, c'est que Jésus va me dire quand je vais le rencontrer, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » Entre dans la présence de ton maître. Ah, gloire au Seigneur. D'un autre côté, il a fait une promesse merveilleuse, Jésus, à tous ceux qui acceptaient de payer le prix pour être ses disciples. Il a dit, « Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » On ne peut pas lire les enseignements de Christ sans être convaincu qu'il annonçait la vie future. Chaque homme au fond de lui-même croit en l'immortalité. Vous savez pourquoi chaque homme au fond de lui-même croit en l'immortalité? Parce que la Bible nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tôt ou tard, peu importe l'âge que vous avez, tôt ou tard, l'idée de la mort fait surface. Moi, en tout cas, jusqu'à l'âge de 50 ans, je n'ai jamais pensé que je mourrais un jour. Même si j'en voyais tomber, je voyais des corbillards qui passaient devant la maison. Jamais, moi, avant l'âge de 50 ans, ça m'était venu à l'idée qu'un jour, je mourrais, quoi. C'était très loin, quoi. Mais c'est bizarre, à partir de 50 ans, et c'est dans l'Église que je me suis aperçu de ça, pas lors d'un service funèbre, mais en voyant les tout-petits. Ouais. À 50 ans, j'ai commencé à me dire, est-ce que je vais les voir se marier, ces gens-là? J'ai dû me rappeler l'éternité. Hey, tu vieillis, tu commences à vieillir. Alors, ceux que tu présentes devant l'Assemblée, le dimanche, à l'âge que tu as, tu n'es pas certain que tu vas les voir se marier un jour. Là, je suis rendu à 63, et là, je suis de moins en moins certain que celui que j'ai pris dans mes mains ce matin, eh bien, que je vais le voir un jour se marier. En rajouter 20 ans, ça fait 83. Ça fait peut-être longtemps que les hommes font plus mal, quoi. Hein?
Ouais.
Ouais. Alors, tôt ou tard, on arrive à un âge où cette pensée d'éternité, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, cette pensée d'éternité finalement finit par nous heurter.
Ouais.
Moi, 58 ans, j'ai eu un cancer, on me donnait 6 mois à vivre. Alors, la pensée d'éternité, la mort, ça vient vous frapper encore beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Vous êtes en santé aujourd'hui. Ça prend juste une cellule dans votre corps qui décide de mal fonctionner. Et tous vos rêves viennent de s'écrouler. Toutes vos ambitions viennent de s'arrêter. Une petite cellule, quoi, parmi les milliards qu'on a. Une seule. Et ça amène votre corps à être dysfonctionnel. Et là, tous vos rêves viennent de s'évanouir. Mais il y a une réalité qui reste, c'est la croix. Et si la croix pour vous aujourd'hui, ce n'est qu'un objet de décoration qu'on se met dans le cou, la croix ne veut rien dire pour vous. Mais si la croix, elle devient une réalité dans votre vie, si vous croyez qu'à travers Jésus-Christ, les portes du ciel vous sont offertes, vous sont ouvertes, eh bien là, toutes les ambitions, tous les rêves sont possibles pour chacun qui place sa confiance dans cette croix. La grande question, c'est celle-ci, êtes-vous prêt à rencontrer Dieu ce matin? Dieu a dit à Ézéchias, c'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. À l'époque du prophète Amos, il a aussi dit aux hommes de cette époque, « Tiens-toi prêt maintenant à comparaître devant moi, ton Dieu. » Chers amis, nous ne savons pas quand notre heure viendra. Seul le chrétien a l'espérance de la vie future. Cet espoir n'est rien d'autre, n'est fondé, pardon, sur rien d'autre que sur le sacrifice accompli par Jésus-Christ à la croix. Nous n'avons pas besoin de rien d'autre, parce que rien d'autre ne peut nous enlever l'aiguillon de la mort et envoyer un rayon d'espoir, c'est les nuages sur les nuages qui nous voilent l'au-delà. Notre ancre, c'est Jésus-Christ, celui-là même qui a aboli la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Sur le point de mourir, John Bunyan, l'auteur du Voyage du Pèlerin, a dit ceci, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous. Je vais vers Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me recevra à cause des mérites de son Fils. Je suis certain que nous nous retrouverons avant longtemps pour chanter son cantique nouveau et que nous serons heureux pour toujours. » C'est à cause de l'éternité que Jésus-Christ est venu et qu'il a accepté de mourir pour nos péchés sur la croix. Quelle est votre vie ce matin? Est-ce une jungle de passion et d'appétit déchaîné? Est-ce un enfer sur terre ou est-ce un hymne de louange et de gloire à celui qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous? Pour construire votre avenir, vous pouvez avoir recours à deux sources. L'esprit de ce monde qui est prêt à vous fournir la convoitise, la passion, l'envie, la cupidité, l'égoïsme et l'orgueil et qui peut vous procurer tout cela facilement et sans restriction. Ou Jésus-Christ, qui lui vous offre la vie éternelle, la paix, la miséricorde, une relation avec lui et l'espérance. Et je le répète, c'est à vous. C'est à vous de choisir quelle sorte de vie vous voulez vivre. Le choix dépend de vous. Dans le psaume 25:8, le psalmiste s'écrit, « L'Éternel est bon et juste, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin à suivre. » Et le mot « bon » ici utilisé par le psalmiste, eh bien, fait ressortir l'idée que dans son amour, Dieu prend plaisir à vouloir le bien de l'autre, peu importe ce que l'autre lui aura fait. Et ça, il n'y a à peu près que Dieu qui peut désirer le bonheur de l'autre, malgré que les gens lui crachent dans la figure, malgré que les gens le renient, malgré que les gens ne veulent rien savoir de lui pendant toute une vie. Il n'y a que Dieu qui peut dire, écoute, malgré tout ça, moi je t'aime. Et malgré tout ça, je veux que tu rentres au ciel. Le chrétien peut dire, Dieu m'a tellement aimé qu'il a fait en sorte que la culpabilité de mon péché soit imputé ou transféré sur son Fils qui était pur et innocent, et Dieu ne l'a même pas épargné de la malédiction de la croix, c'est-à-dire que Dieu à la croix n'a pas hésité à faire en sorte que son Fils soit traité comme un malfaiteur pour moi, et tout cela parce qu'il m'aime, tout cela parce qu'il m'aime.
Ouais.
Je peux dire qu'après 27 ans de vie chrétienne, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et Dieu, l'amour de Dieu ne m'a jamais fait défaut. Et toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais fait défaut à ses promesses. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Vous dites amen à ça ce matin? Ce qu'il promet, il l'accomplit. Moi, je vous parle du haut de la chair ce matin. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi. De toute façon, je ne viens pas prêcher pour savoir ce que vous pensez de moi. Moi, je prêche en avant parce que ce qui est important pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Parce que moi, je vais avoir des comptes à rendre à Dieu sur l'enseignement que je vous donne. Mais dans mon cœur ce matin, mon plus grand désir, s'il y en a dans cette salle qui ont déjà connu Dieu, qui l'ont abandonné, lisez Deutéronome chapitre 20. Dieu vous aime et il est prêt à accueillir à nouveau tous ceux qui l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à déverser sa bonté. Dieu prend plaisir à ramener à lui la brebis qui s'est égarée et la faire rentrer à nouveau dans son troupeau. Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. C'est ce que le psalmiste disait. Dieu est bon. Dieu dit, je te conserve ma bonté. Dans Jérémie 31, verset 3, Dieu dit, je te conserve ma bonté car tu as du prix à mes yeux. Car tu as du prix à mes yeux. Et dans un autre passage, le psalmiste dit, écoutez, votre nom, il est écrit dans les paumes de la main de Dieu, quoi. C'est extraordinaire, ça. Moi, je suis pas un inconnu, moi. Je suis pas juste un Canadien, un Québécois pour Dieu. Moi, je m'appelle Jacques, et Jacques Hudon, il est écrit dans le nom, dans la paume de la main du Seigneur, quoi. Et à chaque jour, quand Dieu étend ses mains sur sa création pour la bénir, quoi, nos noms, il est capable de les lire tous en même temps, quoi. Il a cette faculté, il a cette capacité pour déverser sur nous sa bénédiction, quoi. C'est extraordinaire, cette image de la parole qui nous dit que nos noms sont inscrits dans les mains de Dieu, quoi. Que quand on prie, qu'on verse des larmes, Dieu est capable de lire dans nos larmes ce qu'on avait à lui confier, quoi. La misère, les souffrances qu'on a, Dieu est capable de lire à travers nos larmes, quoi. Extraordinaire. Ouais. Dieu dit, je te conserve ma bonté, car tu as dit, prie à mes yeux. Le Seigneur vous dit, je te conserve ma bonté, je suis en contrôle de toutes choses, et je t'ai appelé pour que tu m'appartiennes. J'ai poussé à la limite de mes capacités, ma bonté, ma grâce pour t'attirer à moi. J'ai semé des graines de ma parole. J'ai répandu mon amour autour de toi afin que tu découvres l'amour que j'éprouve pour toi. Je t'ai attiré vers moi, dit l'Éternel, parce que je t'aime et parce que je prends plaisir à me retrouver en ta compagnie. Ésaïe, chapitre 48, verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. C'est pas extraordinaire, ça? Hey! Ouais. Quand on lit la Bible, tout ce qu'on mérite, c'est d'avoir une bonne gifle de la part du Seigneur, quoi. Tellement qu'on est méchant. Ouais. On a tellement une haute estime de nous à cause de notre orgueil qu'on n'est même pas capable de se voir, de s'analyser tel qu'on est, quoi. Notre monde, il tourne autour de notre nombril. Toute notre vie, quoi. Toute notre vie. Je suis bon, je suis fin, je suis meilleur que les autres. J'ai plus d'argent que les autres. Ma maison est plus grande que les autres. J'ai une plus grosse voiture que les autres. Mon compte de banque est plus gros que les autres. Et le Seigneur, il dit une chose ce matin. Si t'as pas Christ dans ta vie, t'as rien, t'es rien. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible a dit, t'es rien, t'as rien. Et toutes tes belles grandes choses qui tournent autour de ton nombril quand tu vas mourir, tu vas tout laisser cela, quoi. Il y a un combat spirituel dans le monde qui nous permet de garder nos yeux fixés sur ce qu'on voit, sur nos belles maisons, notre compte de banque, une grosse voiture. Notre héritage. Ouais. Alors qu'on va tout laisser ça là, quoi. Et si on commence à lire la Bible, on regarde ce qu'il y a de l'autre côté qui nous attend. C'est extraordinaire. Paul disait, écoute, tout ce que le monde m'offre, c'est de la boue. Je vois ça comme de la boue, quoi. Et vous voudriez que je me retourne dans, me gaver dans la boue? Jamais, hein. Parce que moi, j'ai lu les promesses du Seigneur pour l'éternité. Et soit c'est là-dessus que je vais garder mes yeux, quoi. Et ça, c'est le défi de l'être humain aujourd'hui. On garde nos yeux fixés sur ce qu'on voit à l'extérieur. On garde nos yeux fixés dans ce que la parole nous promet, quoi. Dans ma miséricorde, j'ai envoyé mon Fils bien-aimé Jésus-Christ pour qu'il reçoive la punition de tes péchés, de mes péchés. Il est mort sur la croix pour que ce que tu as fait, afin que rien ne puisse te séparer de son amour. Il a accepté d'être condamné à ta place. J'ai tout fait afin de faire en sorte qu'il te soit possible de venir à moi pour que je fasse de toi une nouvelle créature. Deutéronome, chapitre 30, verset 9. Parce que je prends plaisir à ton bonheur. Parce que je prends plaisir à ton bonheur. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde, nous vivons dans une génération où l'être humain prend plaisir au malheur des autres, où l'être humain prend plaisir à faire souffrir les autres à travers la guerre, à travers toutes sortes de choses. Et Dieu, depuis toute éternité, nous dit, moi, je prends plaisir à ton bonheur. Je prends plaisir à ton bonheur. Veux-tu croire à ce que je te dis? Moi, tu peux pas me traiter de menteur. J'ai jamais menti à personne, dit Dieu. Quand je te dis, je prends plaisir à ton bonheur, je vais prendre plaisir à ton bonheur. Il y a combien de gens dans le monde qui vous ont dit que tout ce qu'ils souhaitaient pour vous, c'était votre bonheur? Et quand vous avez le dos tourné, ils ont poignardé dans le dos. Il y a combien de gens qui vous ont dit, des hommes et des femmes, qui vous ont dit, moi, je vais t'aimer toute ma vie. Ça fait peut-être 30, 40 ans que je ne les ai jamais revus. Ils ont tourné le dos pour en aimer un autre. Quand Dieu dit, je t'aime depuis toujours et je t'aimerai depuis pour toujours, Dieu ne ment pas. Il t'aime depuis toute éternité. Quand Dieu dit, je veux ton bonheur, Dieu ne changera pas d'idée. Il est fidèle. Sa fidélité, elle est éternelle. Quand Dieu dit, je t'aime pour toujours, c'est pour toujours. Il ne changera pas d'idée. Et heureusement qu'il ne changera pas d'idée. Vous imaginez si on meurt de ce côté-ci, qu'on arrive de l'autre côté, de changer d'idée comme on est malheureux. Dieu ne change pas d'idée. Quand Dieu dit « je t'aime », quoi. Ouais. Il n'est pas comme les hommes pour renier sa parole. Quand Dieu dit « je t'aime », ouais. Ça suffit juste que tu mettes ta confiance en moi. J'ai déjà entendu une fois une histoire touchante concernant une pauvre femme qui avait deux enfants. Les enfants n'avaient pas de lit pour dormir et pratiquement pas de vêtements à se mettre sur le dos. Et au beau milieu de l'hiver, alors qu'ils étaient sur le point de mourir de froid, La mère enleva la porte de la cave pour l'amener dans la pièce où se trouvaient ses enfants. Elle plaça la porte devant eux dans le coin où ils s'étaient accroupis pour dormir, afin qu'ils soient protégés de certains courants d'air froid qui auraient pu leur être fatals. Lorsqu'un des enfants entendit sa mère se plaindre de la situation, il lui chuchota ceci à l'oreille. « Maman, pense à tous ces petits-enfants qui n'ont pas de porte de cave pour se protéger du vent glacial comme nous. » Même là, voyez-vous, ce petit cœur avait trouvé une raison pour donner à d'autres ce qui était essentiel pour sa vie, une porte de cave. Nous étions dans le couloir de la mort à cause de nos fautes et dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est la porte, afin de nous permettre d'entrer maintenant et à jamais dans la présence de Dieu. Il a dit, « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger, dit Jésus. » Lorsqu'à la nuit tombe, le berger rassemble ses brebis dans un enclos pour les protéger soit des voleurs, soit du froid ou des animaux sauvages. Et ces enclos sont soit des cavernes, des abris, ou la partie d'un champ qui est entourée d'un mur, fait de pierres ou de branches. Et le berger dort souvent dans l'enclos pour protéger les brebis. Tout comme un berger prend soin de ses brebis, Jésus, le bon berger, prend soin de son troupeau. Dans l'enclos, le berger agit comme une porte, permettant aux brebis, d'y entrer et de les protéger. Et Jésus est la porte du salut pour nous. Contrairement au voleur qui prend la vie, Jésus lui donne la vie. Il donne sa vie et il la donne d'une façon abondante, riche et remplie. C'est la vie éternelle qui commence maintenant. Et la vie en Christ est vécue à un niveau plus élevé, à cause de son pardon, à cause de son amour et de sa bonté qui inonde nos cœurs. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, parce qu'il les aime. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a, avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils, expier le châtiment que nous méritions pour nos péchés, afin de nous délivrer de la puissance que le péché exerçait sur nous et nous réconcilier avec lui. Je ne sais pas ce matin, je vais vous poser deux questions en terminant. Est-ce que tu fais partie déjà de ce troupeau de Jésus ce matin? Est-ce qu'il est ton bon berger ce matin? C'est la question essentielle, c'est la question importante. Être capable avant de mourir de dire pourquoi je suis venu au monde, qu'est-ce que je fais ici, où je m'en vais avant. C'est important. On peut s'appuyer sur les 20 philosophies du monde qui courent de siècle en siècle, ou on peut s'appuyer sur la parole de Dieu qui a fait ses preuves depuis toujours. Et si ce matin tu n'appartiens pas à ce troupeau, eh bien tu peux le faire. Il suffit de te tourner vers lui, de confesser que tu es un pécheur perdu dans tes péchés. Il suffit que tu te repentes de tout le mal que tu as fait, reconnaître que c'est uniquement à travers le sacrifice accompli par Jésus à la croix que tes péchés sont pardonnés, que tu reçois, de tes péchés sont effacés, que tu reçois le pardon de tes péchés. Il est non seulement ton sauveur, mais il va être aussi ton Seigneur. Il est revenu de la mort à la vie, donnant ici à tous ceux qui croient en lui qu'il les ramènera aussi, cette preuve qu'il les ramènera aussi de la mort à la vie. C'est intéressant, il y a des gens, Lazare est revenu à la vie, il est mort. Jésus est revenu à la vie, mais il est vivant. C'est le seul qui était capable de descendre dans le séjour des morts, de prendre les clés de celui qui avait le contrôle sur la mort et de dire maintenant, c'est terminé. Tu n'as plus d'emprise sur la mort pour tous ceux qui croient en moi. Tu n'as plus d'emprise, je t'ai vaincu, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le monde. Et Satan, tu es vaincu. Et voilà ce que la parole nous dit pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Bien, de la même façon, il va nous ramener de la mort à la vie. Je vous invite simplement à courber la tête, à fermer les yeux. Je ne ferai pas d'appel, mais simplement vous inviter dans votre cœur à faire cette prière ce matin, si c'est votre désir. C'est la prière que David a faite dans le psaume 51. Il dit ceci, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car ce matin, je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Accorde-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. »